comme les autres. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bon début de semaine, bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Qui est là le lundi exceptionnellement.
C'est rare, hein?
Ah ouais, parce que tu vas devoir nous quitter un autre jour cette semaine.
Exactement. Bon. Je suis content parce que c'est une journée avec des...
Ben, des bonnes nouvelles quand même, mais oui, sur le plan de la pandémie, pour les gens qui veulent que les choses se replacent un peu après le 8 février, c'est une journée d'espoir.
Oui, on est à 1203 cas. On le sait, là, le lundi, mardi, c'est les journées où on a le plus faible le nombre de cas. Mais par rapport aux autres semaines, on baisse. Là, on sent vraiment ces marches.
Faut retourner au mois de novembre, je pense, pour voir un chiffre comme ça. Là.
À peu près, fin novembre, début décembre, avant que ça se mette vraiment à monter de façon importante. Évidemment, dans les décès, ça, c'est le chiffre qui tarde à s'améliorer. On est à 43, mais dans les hospitalisations, on sent que la baisse, une légère baisse aujourd'hui, moins 6.
Mais ça fait 6 jours de suite que ça baisse. Là.
C'est ça, on est à 1321, on avait dépassé les 1500 personnes hospitalisées. Alors, au moins, on revoit ça d'un bon œil. Et surtout, Mario, plusieurs régions où on est à Côte-Nord 0, Nord du Québec 0, Gaspésie 0, Bas-Saint-Laurent 2, beaucoup de régions où des cas, il n'y en a plus. Là.
Alors, pour eux, il y a de l'espoir au moins pour le 8 février prochain. On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de nouvelles.
15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs de Cube également. Mario, bon, si on comparait la pandémie au fond à une montagne russe, t'sais, les fêtes, tu sais, ça, on a monté, et là encore aujourd'hui, on a vu les chiffres, ça commence à redescendre. Est-ce que c'est à un niveau suffisant pour dire on est sorti du trouble? Pas nécessairement, Mario, mais ça nous amène à se poser la question, parce que l'échéance du 8 février s'en vient quand même, ça, dans deux semaines. L'heure des décisions, on s'en rapproche en ce moment. Quoi faire? Pour le gouvernement, ça sera pas évident, mais les perspectives s'améliorent. On peut se le dire, tellement pas de bonnes nouvelles depuis quelques mois. Les perspectives sont améliorées au Québec, là.
Oui, oui, sur tous les fronts. Aujourd'hui, là, y a seulement les décès là, que ça demeure très élevé, mais évidemment, les décès, ça reflète là, les nombres de cas qu'on avait il y a trois semaines, même un mois. Alors, sinon, là, tous les chiffres, les hospitalisations sont en baisse, ça fait presque une semaine, là, tous les jours, ça baisse. Ça a baissé au total de proche 200. Les nombres de cas, c'est quand même en forte baisse, là, il faut le souligner. Et dans le cas de la baisse du nombre de cas, il faut remonter même au mois de novembre pour voir des chiffres comme ceux-là. Donc, c'est encore élevé. Si on se demande si on est sorti du bois, faut quand même penser qu'il y a 1200 nouvelles personnes qui, hier ou avant-hier, se sont fait tester qui ont la COVID. Et ils se promènent avec, et s'ils font pas attention, puis ils vont la donner à un autre, ou à deux autres, ou à trois autres. Ouais. Ça peut repartir en montant vite. T'as 1200 contaminateurs de plus que la veille. Mais c'est en nette baisse. Donc, faut je pense, souligner ce qui va bien. Qu'est-ce que ça signifie pour le 8 février? D'abord... faut voir qu'il y a des régions, la baisse générale, faut voir qu'il y a des régions où sont presque rendues à zéro. Donc ça, c'est quand même plusieurs régions là, où on est en bas là, de 5 cas par jour. Donc, surtout des régions bon, en périphérie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue. Les îles de la Madeleine sont à zéro depuis un certain temps. Donc, ça nous amène donc à penser que le gouvernement ne va pas reconduire, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il va reconduire le 8 février, là, ce qui a été appliqué le 24 décembre et qu'on confirmé un peu avec le couvre-feu, une espèce de politique, là, tout le monde en zone rouge. À mon avis, on devrait, et je pense qu'on va le faire, revenir à un code des couleurs qui garde quand même une pression sur les régions, parce qu'une fois que ta région... Ce matin, je parlais au maire de Sept-Îles en onde. Il me dit, on est prêt à prendre le pari. Il me dit, on est prêt à prendre le pari, qu'on passe en zone orange ou jaune, on rouvre les restaurants, on rouvre les commerces. Puis si on fait pas attention, ben, le nombre de cas réaugmente là, au-dessus d'un certain seuil, ben on refermera. T'sais, dans le sens que la région est comme responsable de son sort, puis les gens sont responsables de suivre les mesures qui permettent au nombre de cas de rester aux alentours de zéro ou très bas. Et je pense que c'est un peu ça le pari des codes de couleur, là. C'est de faire un deal avec les régions, de dire, regardez, on rouvre un certain nombre d'activités. Si vous voulez que ça reste ouvert, vous savez quoi faire. Ceci dit, Paul, moi, si j'étais au gouvernement, je permettrais des réouvertures, là où les chiffres le permettent. mais je garderai le couvre-feu. Je vais peut-être surprendre des gens. Là.
Ben, c'est ça, je veux...
Ouais, c'est moi, ça, c'est, je veux c'est là peut-être écoute... que j'étonnerais. Je pense que de jour...
Mais partout, est-ce que tu le garderais partout, le couvre-feu, même dans les régions qui vont bien? Ou
ouais,
est-ce qu'on peut envisager un couvre-feu
terme,
là, 4-5-0, 5-1-4?
C'est tentant de le garder. Paul, je pense que ça marche. Je pense que on vient éliminer les sorties le soir où le monde allait voir bien des amis, bien des parties, qui probablement là étaient plus à risque que le fait d'aller manger au restaurant, alors que le restaurateur, lui, il sait qu'il pourrait être surveillé par la CSST, puis il fait attention, puis il a son Purel à l'entrée, puis son plexiglas, puis même chose pour les commerces. Alors probablement que ce serait plus prudent. Si on veut faire quelque chose de progressif, je dis pas garder le couvre-feu pour la vie, là, mais de permettre au commerce, à l'activité économique de fonctionner, au restaurant, de donner des permissions progressives comme celle-là, quitte à temporairement garder le couvre-feu. En tout cas, pour moi, c'est une des options que le gouvernement doit regarder attentivement, parce qu'on est porté à penser spontanément que, comme le couvre-feu, c'est la dernière affaire qui a été mise, c'est la première qu'on retire. Mais pas nécessairement. Ah. La France a fonctionné. Ouais, la France a fonctionné un bout de temps avec des restaurants ouverts, des commerces ouverts, mais un couvre-feu.
Mais avec le couvre-feu, c'est ça. Mais et c'est quoi également, Mario? Force est de constater que ça fonctionne, le couvre-feu.
Oui. Ah oui.
T'sais, pour toutes sortes de raisons, là, on peut échanger là-dessus. Mais la mesure est simple, la mesure est claire et diminue le nombre de contacts que les gens ont, ça c'est sûr. Et c'est du quoi pour les tricheurs? C'est plus probablement plus compliqué là, pour déjouer les règles. T'sais, tu te promènes à 20 heures le soir, même s'il n'y a pas de policiers vraiment qui patrouillent plus qu'à l'habitude. Mais ça fait rien, tu as toujours ça à l'esprit. Et ça fait en sorte... Et Mario, les Québécois ont observé, mais de façon très très spontanée et généralisée, le couvre-feu. Mais moi, je pense que c'est la mesure qui a porté le plus de fruits jusqu'à maintenant.
Ouais. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ça? Ben, il y a certaines régions là, qui sont dans un entre-deux. La région de Québec, la Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ça a beaucoup baissé. L'Estrie, l'Outaouais, où ça va plutôt bien. Donc, il y a des régions comme ça où on est sur le bord, là, le 8. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire le 8 février. Est-ce qu'on va leur dire un autre deux semaines ou une autre semaine? Ou est-ce qu'on pourrait donner déjà une zone orange? Puis il reste Montréal. Pour moi, le reste du Montréal, le grand Montréal, 4-5-0-5-1-4. Sincèrement, à l'heure où on se parle, malgré que la situation s'est améliorée, mais à Laval, à Montérégie, la rive sud de Laval, ça reste très élevé. Montréal, ça reste quand même, c'est moins élevé. C'est moins élevé qu'il y a deux semaines, mais c'est quand même très élevé. Je vois difficilement comment ça pourrait baisser suffisamment dans les 5, 6, 7 prochains jours que le gouvernement, parce que la décision du 8 février, elle se prendra pas le 7 février dans la nuit. Il va falloir qu'elle soit annoncée un peu d'avance. Alors, je vois pas comment, d'ici les 5, 6, 7 jours qui restent pour annoncer une décision, la situation pourrait être assez améliorée. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Une autre deux semaines? À mon avis, on va peut-être y aller pour les plus courtes périodes, en espérant que la situation continue de s'améliorer autant. Mais moi, je serais étonné là, qu'on ait beaucoup plus de liberté pour le Grand Montréal le 8 février, si on me demande mon avis.
L'autre question, c'est le contrôle des voyageurs. Même si ça pèse pas lourd sur l'impact là, du nombre de cas au pays, ça pèse lourd dans l'imaginaire des gens. Tu sais, la frustration de tout le monde de voir les gens partir et revenir sans trop de contraintes. Donc, on comprend, Mario, tu fais convaincu la même lecture que moi. Là. Il y a un cabinet au cours des prochaines minutes à Ottawa et le comité ad hoc mis sur pied par Justin Trudeau, une quinzaine de ses ministres, ne s'entend pas. Le parti, en fait, le gouvernement est divisé jusqu'à maintenant. Mario, au fond, là, ça va être au chef du gouvernement à décider puis à trancher. C'est l'heure de vérité pour Justin Trudeau, là.
Tout à fait. On se comprend, Paul, que c'est Emmanuel Latraverse qui nous rapportait ça, entre autres, que le sous-comité COVID du cabinet de M. Trudeau s'entendent pas entre eux. Alors, si le sous-groupe COVID s'entend pas, le grand cabinet, le grand conseil des ministres à 40, ils s'entendront pas plus, là. Donc, c'est vraiment M. Trudeau qui va devoir trancher. Et s'il tranche quelque chose aujourd'hui, ce soir, peut-être en allant chercher peut-être un consensus général ou une majorité à son cabinet, mais demain, donc, pourrait tout de suite en faire une annonce là, à son point de presse, parce que le mardi, il y a toujours un point de presse à 11h15. Donc, annoncer ça là. Sinon, ça veut dire qu'il se donnerait le prochain point de presse habituel, là, c'est celui du vendredi matin. Donc, est-ce qu'il pourrait attendre à vendredi, traîner ça toute la semaine, étudier des scénarios, etc.? C'est ce qui est à voir. Moi, ce qui m'étonne, Paul, je dois avouer, c'est que le gouvernement fédéral semble étudier deux scénarios. Soit la quarantaine à l'hôtel, soit l'interdiction des voyages. Ouais. Et moi, je suis quand même étonné qu'ils aient complètement renoncé à l'idée de faire la quarantaine à la maison, comme on le fait à l'heure actuelle, qui marche pas, mais qui marche pas parce qu'il n'est pas surveillé. Mais on semble, l'idée de surveiller les gens à la maison davantage, là, avec des gens qui aillent sonner à la porte, qui aillent vérifier, on semble vraiment convaincu qu'on n'a pas les ressources pour ça. On semble vraiment avoir mis un X là-dessus, qui pourtant m'apparaissait l'hypothèse logique, mais bon, on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités. Est-ce qu'on aurait pu embaucher des firmes de sécurité privée? Je ne sais pas. Mais on semble avoir abandonné ça.
Il y a peut-être un troisième scénario, Mario, là, qui semble se discuter aussi. Le confinement, l'isolement obligatoire à l'hôtel aux frais des voyageurs, mais limité, là, ceux qui rentrent du Royaume-Uni, où il y a la fameuse...
Le variant.
Royaume-Uni, Brésil, ceux qui ont été en contact, Afrique du Sud.
Mais ça, Paul, c'est parce que ça, le variant se promène. Là. Les Britanniques sont allés en vacances dans certaines îles des Caraïbes, au Portugal, etc. Le Brésil, le Portugal, ça parle la même langue, ça a des connexions. Donc, au Portugal, présentement, ils ont des deux variants. Ça, à mon avis, c'est bancal un peu comme solution. Parce que là, on a, en Ontario, présentement, on a une première résidence pour personnes âgées où on vit pleinement la réalité du nouveau variant. Et ceux qui le croyaient pas, qui est plus contagieux, là, c'est pas compliqué. La COVID avec ce variant est rentrée dans la résidence pour personnes âgées. Tous les résidents l'ont, les employés, même Diane Lamar nous expliquait ce matin que même les livreurs qui sont venus leur porter de quoi dans la résidence ont contracté la maladie. Donc, quand on dit plus contagieux, si on se met à voir ça partout, on va regretter là, d'avoir laissé les voyageurs aussi libres.
Et Mario, tu sais, ceux qui en doutent, prenons l'exemple de ce qui se passe au Portugal. Là, on s'en parlait. Tu sais, il y a 2 semaines et demie, le Portugal avait la pandémie, avait l'impression d'avoir la situation relativement sous contrôle. C'est terminé, là. Oublie ça. C'est comme un feu de broussailles en ce moment, forcé de fermer les écoles, confinement presque total également, parce que c'est pas facile. Donc, pour le gouvernement Legault, tu sais, écoute, il y a un peu de pile ou face, là. Il y a le variant. Il y a aussi l'impact du retour en classe, Mario, les écoles. Ça a recommencé la semaine dernière.
Il y a beaucoup de cas dans les écoles, encore, hein, déjà.
Ouais. Fait que ce ne sera pas une décision facile pour le gouvernement. Donc, on me dit qu'il se laisse une semaine. Possiblement lundi ou mardi prochain, l'annonce serait faite.
Mais c'est le plus tard, à mon avis, c'est le plus tard où on peut aller. Il faut au moins une semaine à l'avance donner des indications à ceux qui vont rouvrir, etc.
Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission à Cube. Et puis, on se reparle demain.
Au revoir. Salut.